Vous écoutez, on lit pour vous.
L'orthopédagogie peut-elle se faire dehors? Un texte d'André Lavoie, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. L'orthopédagogie hors des murs de l'école? Pour les enfants en difficulté d'apprentissage, c'est une véritable bouffée d'air frais. Dans les années 1950, une mère de famille danoise, Ella Flatau, entreprit de sortir en forêt avec des groupes d'enfants pour de longues marches. Son initiative fit l'effet d'une petite révolution, jetant les bases de la maternelle en plein air. Depuis cette époque, l'ambition de sortir l'école de l'école n'a jamais disparu du paysage malgré les nombreuses contraintes. Et si à quelque chose malheur est bon, la pandémie de COVID-19 aura permis de redécouvrir ses vertus, en plus de réduire la menace du virus. Au printemps 2020, lors de la réouverture des établissements scolaires après quelques semaines de fermeture forcée, Élisabeth Boily, alors orthopédagogue conseil dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se demandait comment ses collègues pourraient intervenir auprès de leurs élèves dans le contexte de crise sanitaire, dans leurs minuscules locaux. Pourquoi ne pas mettre le nez dehors? Mais comment, dans un environnement sans murs ni bureaux, réussir à améliorer les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques? Les bienfaits de l'éducation en plein air étaient déjà documentés, dont l'augmentation de l'attention et la diminution du stress, de même que ces obstacles, dont la météo, la gestion de classe, celle du temps, etc., souligne Élisabeth Boily. Or, s'il est facile d'envisager un cours d'éducation physique ou une classe de sciences naturelles dans un cadre bucolique, il y a un réel défi à élaborer au grand air des pratiques propres à l'orthopédagogie. Ce qui fut au départ une expérimentation dans un contexte totalement inusité s'est peu à peu transformé en véritable sujet de recherche. Depuis, Élisabeth Boily est devenue professeure en adaptation scolaire et sociale à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, bien déterminée à explorer ce qui représente beaucoup plus qu'une activité bonbon. Avec la collaboration des orthopédagogues Simon Villeneuve et Audrey Lemieux, elle explore toutes les possibilités de cette pratique afin d'en recenser les bienfaits, mais aussi les entraves. En utilisant des ballons, des cerceaux, des cordes à linge, voire des boules de neige, dans une cour d'école, un parc ou un boisé, l'élève réussit-il à s'engager sur la voie de la réussite scolaire? À ceux et celles qui croient qu'un tel environnement non contrôlé pourrait augmenter les distractions, la chercheuse réplique par des données. Des études qui portaient spécifiquement sur l'impact de l'enseignement en plein air chez les élèves atteints de troubles déficitaires de l'attention ont constaté une diminution des manifestations. Élisabeth Boily croit au potentiel que représente le plein air pour l'orthopédagogie, de même que pour toutes les matières et tous les services, comme l'orthophonie. Alors que les enfants bougent moins et sortent moins, voilà une approche qui pourrait leur donner le goût d'aller jouer dehors. Pour beaucoup de nos élèves, l'école est un symbole de stigmatisation. Les sortir de cet environnement à l'occasion peut devenir un véritable levier de changement. C'était « L'orthopédagogie peut-elle se faire dehors? » Un texte d'André Lavoie, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.
Peut-on lutter contre la démence avec l'huile d'olive? Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 17 mai 2024 dans la presse. Plus les Américains avalent d'huile d'olive, moins ils meurent avec un diagnostic de démence. Même lorsqu'ils s'alimentent mal, bougent peu, fument, souffrent d'hypertension, etc. Une Québécoise a fait ses découvertes étonnantes à l'Université Harvard grâce à l'observation de plus de 92 000 travailleurs de la santé pendant près de 30 ans. Plus de 7 grammes par jour. Un fossé sépare les Américains qui avalent davantage d'huile d'olive, soit plus d'une demi-cuillère à soupe par jour, de ceux qui n'en consomment pas ou presque pas. Les premiers sont en effet 28 % moins susceptibles de mourir avec un diagnostic de démence. L'association est linéaire. Pour chaque cuillère à thé additionnelle, 5 grammes, le risque était 9 % moindre, précise en entrevue Anne-Julie Tessier, diététiste nutritionniste professionnelle et chercheuse postdoctorale au département de nutrition de l'Université Harvard. Un tiers des personnes âgées meurent déjà de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, et leur nombre augmente, souligne-t-elle. Consommer plus d'huile d'olive pourrait donc constituer une stratégie potentielle pour améliorer la longévité sans démence. Rôle à part. Les résultats de l'étude, publiée le 6 mai 2024 dans le journal de l'Association médicale américaine, JAMA Network Open, permettent d'espérer que l'huile d'olive préserve notre cerveau d'une façon spécifique. Grâce à la multitude d'informations recueillies et à la taille impressionnante de leur échantillon, les chercheurs ont pu créer des sous-groupes et mesurer l'influence de plus de 25 facteurs de confusion potentiels. Contre toute attente, l'huile d'olive semble jouer un rôle à part et offrir une protection qui ne dépend pas des autres habitudes de vie, des maladies, des antécédents familiaux, etc. L'huile d'olive contient des acides gras, des vitamines et des polyphénols qui pourraient exercer des effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs, expose Mme Tessier, qui est titulaire d'un doctorat en nutrition. Femmes avantagées. Avaler plus d'huile d'olive semble encore plus avantageux pour les femmes. Chez celles qui en consomment le plus, le risque de mourir par démence est constamment moindre d'environ 33 %, peu importe les variables considérées, y compris l'indice de masse corporelle, IMC, indique Anne-Julie Tessier. Chez les grands adeptes masculins d'huile d'olive, cette probabilité diminue plutôt de 25 %. Considérer l'IMC semble, par ailleurs, faire perdre à ces derniers tout bénéfice significatif. Les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes structures cérébrales ni les mêmes taux d'hormones et ils ne font pas face aux mêmes influences sociales, explique Anne-Julie Tessier. Plusieurs recherches seront requises pour bien comprendre les implications de ces différences. Variante génétique. Même les gens qui ont hérité d'une variante génétique les prédisposant à mourir d'une démence paraissent profiter d'une grande consommation d'huile d'olive. Cette variante interfère avec le métabolisme des lipides et du glucose et le cerveau peut en souffrir de nombreuses façons. Chez les personnes porteuses du gène, utiliser l'huile d'olive semble encore plus fortement lié à une mortalité plus faible et pourrait donc représenter un avantage un peu plus marqué, observe Anne-Julie Tessier. Parmi l'ensemble des participants à l'étude, ceux qui portaient deux copies de ce gène sont morts 5 à 9 fois plus souvent avec un diagnostic de démence. Mayonnaise et margarine. Mal se nourrir n'empêche pas les grands consommateurs d'huile d'olive de mourir moins souvent de démence. Mais lorsqu'ils adhèrent aux recommandations alimentaires, leur risque diminue encore plus. Lors de l'étude, la margarine et la mayonnaise contenaient encore des gras trans, très nocifs. Ce qui pourrait expliquer pourquoi leur substituer une quantité équivalente d'huile d'olive, 5 grammes par jour, semble avoir réduit de 8 % ou 14 % la probabilité de mourir avec un diagnostic de démence. Remplacer d'autres huiles végétales ou le beurre n'est pas associé à ce changement. Les chercheurs ignorent quelles huiles d'olive les participants consommaient. Puisque leur teneur en polyphénol et autres composés varie, de futures études pourraient révéler que certains types sont plus bénéfiques que d'autres. Pas un produit miracle. Malgré ses bienfaits, l'huile d'olive n'annule pas les ravages de la cigarette, de la sédentarité, etc. « Je ne crois pas aux super-aliments », indique Anne-Julie Tessier. Mais puisqu'elle réduit possiblement le risque de démence fatale, l'utiliser pour la cuisson ou dans des vinaigrettes, au lieu de graisse plus transformée, est une recommandation raisonnable. Inutile toutefois de s'en gaver. On n'a pas observé de quantité à partir de laquelle le risque se voyait inversé. Par contre, sa consommation reste très faible en Amérique du Nord, alors que dans les régions méditerranéennes, les gens peuvent consommer jusqu'à 3 à 4 cuillerées à soupe par jour. Mais il ne faudrait pas en consommer énormément au détriment d'autres aliments sains. En savoir plus. Source, JAMA Network Open. 92 383. Nombre de participants à l'étude. Deux tiers étaient des femmes de la Nurses Health Study et un tiers des hommes de la Health Professionals Follow-up Study. 4751. Nombre de participants morts avec un diagnostic de démence au cours des 28 ans de suivi. C'était « Peut-on lutter contre la démence avec l'huile d'olive? » un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 17 mai 2024 dans La Presse.
L'écœurement et l'émerveillement. Un texte de Stéphane Laporte paru le 14 avril 2024 dans La Presse. Dans un resto de Montréal, l'écœurement et l'émerveillement lunchent ensemble. L'émerveillement s'emballe. Non, mais y es-tu assez bon, le risotto ici? Je pense que c'est le meilleur risotto que j'ai mangé dans ma vie. L'écœurement fait la moue. Y est correct. Y goûte toujours la même affaire. Je suis tanné du déjà vu, du déjà mangé. Il est temps qu'on change de place. L'émerveillement réplique. Moi, j'aime ça ici. C'est beau puis la musique est bonne. Écoute, écoute. C'est la nouvelle toune de Charlotte Cardin. C'est bon. Tu l'aimes-tu? Eh, pas pire. Charlotte Cardin, elle sort toujours des bonnes tounes. À un moment donné, ça devient lassant. L'émerveillement déguste une bouchée et dit, les yeux grands, j'ai assez hâte à l'éclipse. L'écœurement hoche la tête, les yeux au ciel. L'éclipse, je suis plus capable. On entend juste parler de ça. On va-tu en revenir? La lune va passer devant le soleil. Ouais, puis. Moi aussi, ça m'arrive de passer devant le soleil, puis personne capote sur mon ombre. L'émerveillement sourit. Tu comprends pas, c'est un phénomène très rare. On est chanceux d'avoir une éclipse totale chez nous. La prochaine fois que ça va arriver au Québec, ça va être en 2106. J'espère qu'ils parleront pas de la prochaine durant 82 ans. As-tu tes lunettes? Quoi, la facture est arrivée? Non, pas tes lunettes pour lire, tes lunettes pour l'éclipse. Les lunettes qu'on voit rien avec? M'en fermer les yeux, ça va faire pareil. Si tu fermes tes yeux, tu verras vraiment rien. Il n'y a rien à voir. Un rond qui passe sur un rond. Ça arrive dans toutes les games de curling. Personne s'excite avec ça. Moi, les éclipses, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Ça te passe précisément 384 400 km par-dessus la tête. C'est la distance entre la Terre et la Lune. On parle-tu d'autre chose? Sinon, tu t'éclipses? Hey, le comique! Tu vas finir ton dîner tout seul? De quoi tu veux parler? Du Canadien? Ça, je suis écœuré aussi. De Taylor Swift? Je suis un Swiffer. Tu veux dire un Swiftie, comme moi? Non, un Swiffer. Je balais ça, Taylor Swift. Ben, on peut parler du réchauffement de la planète. Ça, je suis bien écœuré de ça. De quoi t'es pas tanné de parler? De rien. Je suis écœuré de tout. C'est tout du déjà vu. Quelques minutes plus tard, devant le restaurant, l'écœurement dit au revoir à l'émerveillement. Faut que j'y aille rapidement. Il est déjà 14 heures. J'ai un rendez-vous à 14h30. Comment ça, t'as un rendez-vous? L'éclipse commence à 14h14. Je m'en fous de l'éclipse. Ah, j'ai un texto. Mon rendez-vous vient de m'annuler. Ben, je le comprends. Viens, on va aller la regarder dans le parc en face. Les deux compères s'assoient sur un banc. L'écœurement est déjà tanné. Je vais rentrer au bureau. De toute façon, j'ai pas de lunettes. Je peux pas la regarder, ton éclipse. L'émerveillement sort deux paires de lunettes de sa poche. J'avais prévu le coup. Mets-les, ça commence. L'écœurement rouspète. Ça tient pas, ces lunettes-là. On voit rien. Faut que tu regardes le soleil. Il est où? Faut que j'enlève mes lunettes pour voir il est où? OK, il est là. On voit juste un petit rond. On dirait qu'on regarde dans l'appareil de l'optométriste pour savoir la force de nos lunettes. Tout ça pour un petit rond jaune. Regarde en bas à droite. Il y a comme une tache noire. C'est une cataracte? Ben non. C'est la lune qui s'en vient devant le soleil. Est pas pressé. L'émerveillement regarde le rendez-vous du soleil avec la lune en arborant un sourire béat. L'écœurement regarde son téléphone, répond à ses textos. L'émerveillement le prévient. Si t'as pas tes lunettes, tu peux pas regarder le soleil. C'est dangereux. Crains pas, j'ai des choses moins plates à regarder. Waouh! Oh waouh! Ça commence à être pas plate du tout. L'écœurement remet ses lunettes. Ah, un croissant de soleil. T'avais-tu déjà vu ça, monsieur déjà vu? Non. Un croissant de soleil. J'espère que Ginette Renaud regarde. Il commence à faire froid. Le vent se lève. Les deux opposés relèvent leur col. La lumière du jour change de texture. L'émerveillement crie de joie. L'écœurement voudrait bien faire le rabat-joie comme d'habitude, mais il ne le fait pas, parce qu'en ce moment, rien n'est comme d'habitude. Tout est comme du jamais vu. L'émerveillement enlève ses lunettes et dit à son ami « Il est 15h26, tu peux enlever tes lunettes, toi aussi. » L'écœurement enlève ses lunettes. Il regarde autour de lui. Ce n'est plus le jour. Ce n'est pas la nuit telle qu'on la connaît non plus. C'est la minute argentée, belle et apocalyptique à la fois. Et c'est alors que l'écœurement, les yeux grands ouverts, s'émerveille un instant. Un instant d'émerveillement qui restera en lui pour toujours et pour longtemps. C'était « L'écœurement et l'émerveillement », un texte de Stéphane Laporte paru le 14 avril 2024 dans La Presse.
Dépister l'autisme au moyen d'un échantillon de sel. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne paru le 11 juillet 2024 dans Le Devoir. L'analyse d'un échantillon de sel pourrait un jour permettre de diagnostiquer l'autisme beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement, ce qui permettrait une prise en charge plus hâtive des patients. C'est du moins ce que permettent d'espérer des travaux réalisés à l'Université chinoise de Hong Kong et dont les résultats ont récemment été publiés par le journal médical Nature Biology. Les auteurs de l'étude ont examiné des échantillons de sel provenant de 1627 enfants âgés de 1 à 13 ans, dont certains qui étaient autistes. Ils ont brossé un portrait complet de ces échantillons en analysant les bactéries qu'ils contiennent, mais aussi les virus, les champignons et des micro-organismes unicellulaires appelés archées. Ils ont constaté que 51 types de bactéries, 18 virus, 14 archées et 7 champignons étaient différents chez les enfants autistes. L'intelligence artificielle a ensuite été en mesure d'identifier avec une précision de 82% les enfants autistes. L'examen des sels qu'ils ont faits n'est absolument pas simple, a tempéré le docteur Michael Bouin, qui est gastro-entérologue au CHUM. C'est très complexe et il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui sont capables de le réaliser en ce moment. À tout le moins, a-t-il ajouté, cette étude ouvre une nouvelle voie pour essayer de mieux comprendre la maladie.
Elle pourrait aussi un jour permettre de dépister plus rapidement les enfants afin d'en prioriser certains, a-t-il ajouté. L'autisme reste un trouble du développement, a rappelé le docteur Bouin. Le diagnostic devra toujours être validé par un expert de l'autisme, pas par un expert du microbiote intestinal. Des études précédentes avaient déjà révélé que les autistes ont un microbiote intestinal différent, a-t-il souligné. Des expériences réalisées sur des souris avaient généré des résultats similaires, en plus de montrer qu'on pouvait réduire les symptômes de souris autistes en modifiant leur microbiote et qu'on pouvait donner à des souris en santé des symptômes de l'autisme en leur donnant le microbiote intestinal d'une souris autiste. C'est la question de la poule et de l'œuf, a dit le docteur Bouin. Mais on sent que le microbiote intestinal a un effet sur le cerveau, et ça, on le sait pour plusieurs maladies. En effet, les auteurs de l'étude admettent qu'il n'est pas pour le moment possible de dire si l'autisme est responsable de ce microbiote différent, ou bien si le microbiote différent est responsable de l'autisme. Mais à la lumière de leurs résultats, les auteurs estiment que le microbiote influence possiblement la sévérité ou l'expression des symptômes du trouble du spectre de l'autisme. Cela soulève la possibilité qu'on puisse un jour proposer aux patients des interventions personnalisées pour les doter d'un microbiote intestinal plus varié. C'était « Dépister l'autisme au moyen d'un échantillon de sel », un texte de Jean-Benoît Legault, de la presse canadienne, paru le 11 juillet 2024 dans Le Devoir.
Saison des ouragans, des prévisions records. Un texte de Marine Ernould, paru le 11 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Entre 17 et 25 tempêtes nommées sont prévues. Mais il est encore bien trop tôt pour savoir lesquelles toucheront les côtes de l'île du Prince-Édouard. L'augmentation sans précédent de la température de l'océan, liée au réchauffement climatique, explique en grande partie l'intensification des ouragans de l'Atlantique Nord. La nouvelle saison des ouragans, qui a commencé le 1er juin dernier, s'annonce très active dans l'océan Atlantique. Selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine, NOAA, il pourrait se former de 17 à 25 tempêtes nommées dans l'océan Atlantique d'ici le 30 novembre prochain. Les tempêtes sont baptisées lorsque les vents dépassent la vitesse de 119 km/h et qu'ils sont accompagnés de pluies torrentielles. D'après les prévisions, 8 à 13 de ces tempêtes d'importance pourraient se transformer en ouragans et de 4 à 7 risquent de devenir des ouragans majeurs. Ce sont des prévisions records, observe Bob Robichaud, météorologue à Environnement Canada. C'est assez exceptionnel parce qu'en principe, les années El Niño, il y a tendance à avoir moins d'ouragans. Surchauffe sous les tropiques. En réalité, les températures de l'eau largement au-dessus des normales dans l'océan Atlantique expliquent cette situation hors norme et contrebalancent les impacts d'El Niño. L'eau chaude s'évapore et monte en altitude pour nourrir l'ouragan. C'est comme une source d'énergie, explique Bob Robichaud. Dit autrement, les ouragans transportent l'excès de chaleur des océans de la basse atmosphère vers des altitudes de plus élevées. Influencé par la rotation de la Terre, le phénomène se met ensuite à tourner sur lui-même avant d'être poussé par des vents, éventuellement vers les côtes. Sous la surface de l'océan, dans la zone des tropiques, le thermomètre chauffe d'ores et déjà à des niveaux équivalents à ceux habituellement observés à la mi-août. Normalement, la période la plus active est entre septembre et octobre, mais cette saison les premières tempêtes pourraient arriver plus tôt que d'habitude, relève Bob Robichaud. L'automne dernier, une étude américaine a illustré la façon dont le réchauffement climatique d'origine humaine amplifie la puissance et la force d'impact des ouragans, principalement à cause de l'augmentation inhabituelle des températures de la partie supérieure des océans. El Niño contre la Niña. Une analyse des changements observés dans la vitesse du vent dans les ouragans de l'Atlantique de 1971 à 2020 indique que leur intensification a déjà changé à mesure que les émissions de gaz à effet de serre ont réchauffé la planète, précise dans son étude l'auteur Andra G. Garner, climatologue à l'Université Rowan dans le New Jersey. Bob Robichaud relève de son côté que les ouragans ont à la fois gagné en puissance, le vent maximal étant plus fort, mais s'intensifie aussi plus rapidement. Le nombre d'ouragans qui passent de la catégorie 1 aux catégories 3, 4 et 5 en à peine 36 heures a ainsi plus que doublé au 21e siècle, 2001 à 2020, par rapport à la fin du 20e siècle, 1971-1990. Par contre, les modèles montrent qu'on n'aura pas nécessairement des tempêtes à une plus grande fréquence, précise Bob Robichaud. Cette année, un autre facteur entre en ligne de compte, la Niña. Ce phénomène climatique refroidit les eaux dans certaines parties de l'océan Pacifique, ce qui a tendance à créer plus d'ouragans en Atlantique. Quel que soit le nombre de tempêtes prévues, Bob Robichaud insiste sur l'importance de se préparer et de se tenir régulièrement au courant des conditions météorologiques. Il faut se tenir prêt de la même façon chaque année. Qu'il y ait 10 ou 25 tempêtes d'annoncer, ça en prend juste une dans la zone où on habite pour qu'il y ait des dégâts majeurs, souligne le météorologue. C'était « Saison des ouragans, des prévisions records ». Un texte de Marine Ernould, paru le 11 juin 2024 dans « La Voix acadienne » de l'Île-du-Prince-Édouard.